19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver pour démarrer cette toute nouvelle semaine dans les informés. Les informés, vous savez, on ne change pas une habitude qui évidemment fonctionne, commenter, analyser, décrypter l'actualité. Eh bien c'est parti au sommaire de cette émission. Alors plusieurs sujets qui ont retenu notre attention. D'abord, on reviendra sur le tout de suite, on va entrer dans le sujet avec vous, dans le face-à-face avec les débatteurs influenceurs qui sont quatre ce soir pour reposer leur point de vue, bosser leur regard aussi, notamment sur la motion de censure. On reviendra alors. C'est pas tant la motion de censure qui nous intéresse, moi. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est cette gauche, ce Parti Socialiste, cette gauche. Est-ce qu'elle existe encore finalement? Parce que c'est elle finalement. Mon regard se porte justement dans cette Assemblée nationale, cet hémicycle, où la gauche parfois paraît inexistante. On dirait qu'elle est seule face, vous savez quoi, à l'extrême droite d'un côté, la droite qui parfois évidemment a ce regard d'observateur qui scrute évidemment les gens de gauche, et puis Renaissance qui essaye de se débrouiller pour aller tracter ici et là. Eh oui, vous le savez, clochette chers amis, où est passée la gauche, et puis surtout pèse-t-elle encore la gauche? Quand je dis la gauche, y compris bien sûr le Parti Socialiste. Il existe encore? Pardon, oh, clochette. Ensuite, nous allons parler. Alors là, j'aime bien les tacles. Là, j'aime bien. Alors, Bompard, monsieur Bompard, qui est le député LFI, il aime bien tacler, lui, vous savez, hein, avec ses punchlines, parfois il tacle. Hein. Il dit tu salis, tu pars avec ta clique. En fait, il faisait référence à. Il ironise, hein, vous savez sur qui? Il ironise sur Gabriel Attal. Ah là là, où est passée cette politique qu'on a connue d'antan? Enfin, pas si longtemps que ça en même temps. Hein. Elle est passée où, c'est vrai, hein. Il y avait du niveau quand même. Monsieur Bompard, faut relever un peu le truc, cher Clochette. Alors là, ça c'est Myris. Parce que, victime française à Gaza, quand j'ai vu que l'Élysée envisage un temps mémoriel ultérieur, je me suis dit, pourquoi ne pas associer ce temps mémoriel au même moment, mercredi prochain, avec évidemment... D'ailleurs, c'est justifié le 7 prochain, le mercredi prochain, vous savez qu'il y a un grand moment pour les victimes du 7 octobre. Pourquoi ne pas avoir associé, évidemment, la même manière, cet hommage aux victimes françaises à Gaza? Ça aurait été dans la symbolique extrêmement puissant, hein, au niveau mondial. Clochette. L'Élysée, on va vous contacter, hein. Si vous pouvez intervenir, ce serait bien. La colère des agriculteurs, vous savez, toujours, et évidemment, elle est d'actualité. Alors, Michel, Édouard Leclerc, hein, le chef d'entreprise le plus médiatique. Toujours, il fait des sorties. Alors aujourd'hui, moi, je l'aime beaucoup, monsieur Leclerc. Mais là, des fois, je me pose des questions. Je me dis, quoi il joue, le monsieur, hein? Alors, la colère des agriculteurs, c'est, il a assuré que les agriculteurs ont reçu des consignes. Bon. Monsieur Leclerc, peut-être que vous sombrez dans le complotisme, disent certains. Attention, hein, clochette. Bref, quatre débatteurs. Alors ensuite, vous savez, le 19h50, c'est le Quad Neuf. Le Quad Neuf, c'est Michel Taube. Michel Taube, c'est le patron éditorialiste de Opinion Internationale. Il viendra nous livrer deux regards. Il va nous commenter ce qui se déroule en ce moment même, vous savez, avec Monsieur Olaf, depuis l'Allemagne, eh bien, et Monsieur Attal, pardon, j'ai oublié, Monsieur Gabriel Attal. Et puis on reviendra aussi surtout sur ces nominations. Vous savez, il y a la deuxième vague des nominations du gouvernement. Je sais pas ce qui se passe, hein, d'ailleurs, on se pose, on s'interroge. Hein. Finalement, peut-être. Ouais. Bon, finalement, peut-être que ça traîne et on connaîtra peut-être les raisons tout à l'heure avec Michel Taube. Et puis vous, 01 53 48 3000, vous êtes de plus en plus nombreux, chers amis. Hein. Alors on vous attend, bien sûr. Au standard, Solal vous accueille, comme chaque soir, au 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
Ah, il y en a, il est venu avec le costume aujourd'hui, hein. Là, classe, beau gosse, hein. Il est candidat, hein. Il a endossé l'habit du candidat.
De temps en temps,
c'est Thierry Paul Valette.
Ça fait du bien aussi.
Ouais, je vois ça, hein. Ouais. Ça fait même pas candidat, ça fait l'homme d'affaires.
L'homme occupé.
Ouais, ça va? Bah Thierry Paul Valette, ouais. Ancienne figure des Gilets jaunes.
On est en direct.
Rappelez, hein. Bien sûr. Bah oui, on est en direct. Ouais. Il est marrant, lui. J'aime bien, il est marrant. Lui. Depuis tout à l'heure, je lui dis, ouais, je l'accueille. Je lui dis, ouais, il est en costard et tout. On est en direct.
Oui. Donc vous merci de me recevoir. Oui, merci de me recevoir. Et oui, et
je... Rappelez-nous votre parti.
Europe Équitable, donc un parti européen. Et puis là, on présente une liste, la liste arc-en-ciel pour les élections 2024 et qui ne sont pas une fin en
c'est
soi,
bientôt, hein.
Mais plutôt un commencement. Et le tempo est très rapide et ça va être assez violent quand même.
Ça se passe bien.
Ça va être compliqué parce que la crise des agriculteurs aussi, ça a desservi et ça a mis en avant les problématiques européennes, notamment au niveau des normes. Donc il va falloir réexpliquer aux gens, redonner confiance. Voilà, on va en discuter, bien sûr.
À vos côtés, les journalistes, c'est Merwan Mioubi. Bonsoir, Merwan.
Bonsoir, Adil, et bonsoir à tous.
Lui, il est arrivé en gilet, hein. Tranquille, décontracte, à l'aise.
Toujours.
L'homme de gauche, à l'aise, tranquille.
Oh, non.
Ça existe encore.
Non. Les gens de droite, les gens de gauche.
On est français, on est à la fois de gauche et de droite.
Ça existe encore, ouais. Ça existe encore.
Mais c'est une bonne nouvelle.
C'est une nouvelle forme de en même temps.
C'est ce qu'on appelle la rescapée. Oh, pardon. Et clochette. Ouais, j'ai une boulette. Mais vous donc, alors, le journaliste de droite, Karim?
Bah, je ne suis pas ni de droite ni de gauche. Moi, j'ai appris deux choses en 35 ans de vie politique. Il faut rassembler le maximum de personnes pour dépasser un certain nombre de contradictions.
Vous savez comment on appelle
la
ça?
La gauche et la droite a failli.
De la démagogie.
C'est pas de la démagogie. Pas de la démagogie. Parce qu'on a vu ce que la droite a fait, on a vu ce que la gauche a fait.
Ouais. Et alors?
Ils sont même marginaux aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, c'est-à-dire pourquoi,
Karim,
au bout de 40 ans, ils sont arrivés, on
Karim,
en parlera.
Karim, on va se fâcher, vous et moi.
De la France insoumise, on en parlera.
Karim, franchement, je vous aimais bien jusqu'ici, hein, monsieur Mahoub. Entrepreneur aussi, notamment.
Absolument.
À vos côtés, une toute nouvelle. Voilà. Elle fait son baptême de feu. C'est Élodie Bouzide. Comment ça va, Élodie Bouzide?
La forme. À reprendre
bien.
Ce que tu disais. Le ni de droite ni de gauche, on l'a vu, ça donne le macronisme. Donc,
ouais, le en même temps.
Mais le en même temps.
Non, c'est pas
ça.
En même temps.
Elle arrive direct, elle a compris, hein, le ton.
C'est pas parce que vous arrivez.
Une punchline, c'est
punchline,
très bien.
Punchline.
On connaît sur Macron que ce que je viens de dire. Il faut.
Ah, madame Bouzide, elle sait comment donner le ton.
Le dépassement de la gauche et la droite, on le voit. Ils sont dépassés. Ils ne produisent aucune idée. Vous pouvez, mais c'était une idée
Monsieur
de la gauche
Maloum.
Depuis 20 ans. Une seule idée de la gauche.
Monsieur
aucune
Maloum.
Idée.
Pour
une prod.
Monsieur Maloum.
Monsieur
Karim Maloum. Elle vous a allumé. Vous voulez pas l'admettre.
Aucune idée.
Mais par contre, ce qui est dommage.
Attendez, excusez-moi. Ah, vous vous rendez compte, vous êtes taclé par une Europe Écologie Les Verts. C'est la classe, ça, quand même.
Contre, bien.
Attention, les concerts régionaux. Il est où votre pins, là? Comme fait Philippe Ladji-Boyecki.
Mais non, mais je fais pas comme Philippe, je mets pas mon pins, moi, généralement. Ben
pourquoi? Et alors, c'est bien.
Je pense pas incognito. Le mettre, et puis ça troue mes robes aussi. Donc,
ça troue les robes. Ah. Ouais, vaut mieux les garder, hein. sans jeu de mots. Hein.
Adil, pour
parce
pour
que vous, c'est vous qui avez tendu la perche, c'est pas moi. Hein. Vous avez parlé de trous dans les robes, alors. Bienvenue.
Merci.
Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a, Thierry?
Oui, Paul parce Ballet qu'on parle souvent la droite, la gauche, on confronte les deux, mais il y a quand même le centre qui est essentiel aussi au bon fonctionnement et on a tendance à l'oublier.
Et il y a le centre gauche,
le centre droit, le centre gauche, voilà.
Moi, je réponds aux gens qui considèrent que la gauche et la droite, non, ils ont failli, ils ne produisent plus d'idées, ils n'ont aucune idée.
Exactement.
En fait, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce qui est la gauche est devenue.
Eh ben, on va en parler. Tiens, c'est le premier sujet.
C'est la gauche.
La politique économique de droite.
Jingle, c'est parti, messieurs. Vous savez quoi de ce premier sujet? Tiens, je vous donne la parole, Karim Maloum. Vous savez quoi? La gauche existe-t-elle encore justement parce qu'elle a fait une censure et ils se sont fait paf, tacler.
La France était une démocratie parlementaire. Effectivement, tout se passe au Parlement. Quand on a entendu ce que M. Bompard a dit sur le Premier ministre, moi je me suis dit, on était dans une école de récré. On est vraiment, il est dans son bac à sable. Il n'est pas à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un comportement d'un dirigeant de gauche. C'est indigne.
Non, mais déjà, on n'est pas sur le sujet.
Je veux qu'on reste sur la motion de censure. Gauche, est-ce qu'elle pèse encore au sein de l'Assemblée nationale?
Non, mais
répondez à ma question, s'il vous plaît.
Je parle de la motion de censure. La motion de censure, donc dans une assemblée complètement vide. Il y a eu 124 personnes qui ont voté la motion de censure pour avoir. Il faut pour que ça passe, 289. Quand on a 124 personnes qui ont députés qui ont voté, c'est-à-dire que vous n'existez même pas. La gauche, ils sont à 150. Ils n'ont même pas réussi à gagner une voix.
C'est dramatique.
Sur les autres camps. Mais c'est un échec total.
C'est pas une question.
Est-ce que la gauche existe?
Pas...
Non, elle fait du bruit. C'est le bruit et la fureur. Oui, elle fait beaucoup de bruit. On n'entend que de la bruit. Qu'est-ce qu'on a retenu
pourquoi
aujourd'hui?
Pourquoi elle n'existerait pas? Allez-y.
Parce qu'elle ne produit plus d'idées. Elle est hors circuit. Ce sont les idées qui motivent les gens. Qu'est-ce qui peut ramener les gens à suivre un mouvement politique? Ce sont les idées.
Faisons un tour de table. Thierry Paul Valette, alors.
La gauche, elle existe. Simplement, la
vous
gauche,
le répondez, elle existe.
Elle existe, bien sûr. Elle existe sur l'échiquier politique, elle existe. Simplement, elle est en miettes.
Elle existe, vous savez pourquoi elle existe? Je vais vous répondre, parce qu'il y a aussi ses acquis sociaux. C'est grâce à la gauche.
Évidemment, bien évidemment. Et parce qu'il y a aussi les citoyens qui se mobilisent pour ne pas perdre ses acquis sociaux, pour ne pas reculer. Simplement, dans ses idées, elle n'a pas su se renouveler, elle n'a pas su avancer, elle n'a pas su se reconstruire. Elle est en miettes. D'ailleurs, on l'a vu avec la NUPES, on les voit pour les prochaines européennes. Ils sont en ordre de dispersion totale.
Mais il n'a pas tort, Karim Maloum. Il dit qu'elle produit plus d'idées. Ça, c'est pas
elle ne produit plus d'idées. Elle est restée sur ses acquis avec des idées qui sont vieilles d'il y a 10, 20, 30 ans. Et le problème, à ne pas avoir voulu prendre en main des sujets qui étaient majeurs, notamment comme l'immigration. Parler d'immigration, c'est pas sale, c'est pas raciste, c'est pas extrémiste.
Une urgence.
Mais on a laissé tous ces thèmes à l'extrême droite. Voilà. Et aujourd'hui, ils se sont fait déborder.
Non seulement l'immigration, on a abandonné le drapeau, on a la patrie, tout abandonné.
Exactement.
La gauche a toujours été politique.
La gauche a toujours été.
On va vous laisser discuter.
Non, c'est très bien. Je vais distribuer la gauche. Après, je termine. La gauche, quand ils produisaient des idées, mais des masses, des ouvriers. Pourquoi tous les ouvriers, les agriculteurs ont quitté la gauche? Je vais vous rappeler quelque chose de très important. Je le dis, ce que j'ai dit aujourd'hui chez Morandini sur CNews.
Allez-y,
je vais le dire. Eh bien, en 1983, en novembre 83, quand Georges Marchais disait, je l'ai dit la dernière fois, il faut arrêter l'immigration légale et clandestine parce que ça tire les acquis sociaux vers le bas, ça permet au patronat de payer très mal les gens et ça permet aux gîtes d'affaiblir les syndicats.
Ça s'appelle du dumping social, c'est un principe économique.
Mais la gauche soutient ça. Mais à l'époque, la gauche était contre cette dérive du patronat. Et tous les ouvriers étaient avec la gauche. Aujourd'hui, la dérive du patronat. Et les ouvriers ont été à la gauche.
Rappelons que Georges Marchais était communiste aussi.
Oui, mais je
suis d'accord.
Alors, c'est pas le face-à-face, mais on va faire un tour de table quand même. Il y a la conseillère régionale qu'on n'a pas entendue et Merwan Mehoubi.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de proposition réelle à droite, parce que quand on regarde un petit peu les propositions des politiques de droite, c'est s'aligner sur ce que l'Europe a produit. Or, l'Europe et tout ce qui a trahi les Français au niveau économique et tout ce qu'on doit d'échecs au niveau de santé, au niveau des agriculteurs, au niveau de ce pseudo-marché européen, on le doit à la droite. Merci la droite, merci monsieur Nicolas Sarkozy, aussi du temps de Chirac et aussi avant, faut le dire aussi, de la gauche de monsieur Mitterrand et tout ce qu'il y a eu des traités de Maastricht derrière. Mais au-delà de ça, les Français sont intrinsèquement de gauche, puisque sinon, il n'y aurait pas un succès à chaque élection du barrage au Front National, et depuis longtemps, on aurait un Front National.
La France est à droite depuis longtemps, cher ami.
Elle est à droite. Pourquoi le tissu économique et les travailleurs n'ont pas de réelles propositions à gauche, et que la gauche n'a fait que se diviser sur des questions idéologiques et ne s'est pas unifiée sur la question économique. Et là, on a des propositions qui commencent à sortir avec des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, parce que oui, il y a des propositions au niveau économique, mais ce qu'il faut que la gauche intègre... Ce que la gauche va devoir intégrer avec le temps, c'est l'idée de souverainisme. Et c'est ça qui fera qu'on aura une personnalité qui sera à la fois sociale et patriote dans ce pays. Ça n'est pas une question.
Mais nationaliste, vous défendez... Il s'appelle M. Cazeneuve. Voici la nouvelle figure qui va apparaître, c'est M. Cazeneuve.
Sans doute, c'est possible que ce soit Cazeneuve. Macron n'existait pas deux ans avant,
bien sûr. Mais la gauche démocrate,
mais pas la gauche de Mélenchon.
Non, pas la gauche du tout de Mélenchon. Non, c'est la gauche démocrate.
Sauf qu'à chaque élection, c'est le troisième homme.
On va respecter juste.
Mais c'est le troisième homme et c'est le seul qui parle des sujets sérieux.
Elodie Bouzid, la conseillère régionale, peut-être qu'elle a un avis, elle aussi.
Oui, alors j'ai un avis. Malheureusement, il ne va pas aller dans votre sens. Vous dites que la gauche n'existe plus, mais aujourd'hui, il y a 251 députés de gauche, si on compte les socialistes, à l'Assemblée nationale. Ces 251 députés représente aujourd'hui plus que le Rassemblement National entier, qui sont dans les 80
députés. Où sont les 250, là, je suis désolé.
Mais... C'est la NUPES.
C'est la NUPES.
Bah, elle est belle, la NUPES. Aux élections européennes, elle éclate, la NUPES.
Excusez-moi, il y a 150 députés, la NUPES, madame.
150 députés.
La gauche,
députés.
Ici,
vous m'avez dit 250, c'est pour ça.
Non, les forces sont 150 députés de la NUPES, 80 députés du Rassemblement National et 250 députés qu'on va mettre dans le bloc centriste. Donc aujourd'hui, si on regarde les forces présentes au Parlement, la première force d'opposition. Et forcément, la gauche, la NUPES. Qu'elle soit...
Il n'existe plus la NUPES.
Elle existe.
Elodie, on marque une pause et vous allez nous dire pourquoi elle existe. Non, moi, ça m'intéresse de savoir.
C'est un calcul politique.
À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Si ça finit. Oui, oui, le débat continue, vous avez compris, pendant la pause, ça c'est vrai.
Hein, vous n'imaginez pas Jean-Marie Le Pen.
On est en direct, messieurs, même si le débat continue. Hein. Avec Elodie Bouzid, avec Karim Maloum, avec enfin Thierry Paul Valette, enfin non, et enfin oui, Merouane Mioubi. Oui, je sais pourquoi, mais arrêtez de m'arrêter.
Mais non.
Laissez, je connais. Ah, je sais quand même que vous êtes Mioubi, quand même. Il veut défendre son nom, il a raison. Elodie, je vous ai interrompu.
Je suis algérien.
Ouais,
justement. Et il est marrant, lui.
La NUPES existe-t-elle encore?
Exactement. Vous apprêtiez à nous dire les raisons pour lesquelles elle existe. Allez, on vous écoute. Justement, et vous la laissez. Vous la laissez, vous lui répondez après.
Merci.
Ah oui, vous la laissez.
Ah, moi, je ne coupe plus la parole.
Alors, la NUPES, non, à la base, la parole, c'était un accord, une coalition pour les législatives qui s'est matérialisée aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec 151 députés, comme on l'a dit. Sauf qu'aujourd'hui, NUPES ou pas, qu'on donne un autre nom à cette coalition de gauche, elle existe et on la voit dans toutes les institutions, notamment au Conseil régional d'Île-de-France. Quand on dépose des amendements, on travaille tout le temps ensemble. Et c'est cette volonté de travailler en commun pour laquelle les Français nous ont fait confiance pendant les législatives et que nous continuons d'élaborer. On continue. Et par rapport aux européennes, parce que je vous vois déjà venir me dire oui, mais aux européennes, vous partez divisés, patati patata. Certes, on part divisés, mais c'est parce qu'on a des projets qui sont sur les européennes aussi différents et chacun veut porter sa couleur et sa famille politique.
C'est
pour autant. Pour autant, un des trucs qui revient le plus dans toutes les familles politiques, c'est de dire on ne tape pas sur les autres voisins à gauche, déjà premièrement, et ensuite si on regarde...
Si on peut taper sur le reste, mais pas à la gauche. Pas la famille de
gauche. Oui, pas la famille de gauche. Voilà. Votre voisin à gauche, c'est ça. Et si on regarde, par exemple, les premiers sondages qui étaient sortis pour les européennes, on voyait également que si la gauche partait divisée, ils auraient à la fin plus de députés européens que s'ils partaient ensemble. Donc il y a aussi des stratégies électorales à ces fins-là, et c'est pour ça qu'on part divisé. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'en 2027, nous partirons divisés. Et c'est aujourd'hui criant que la gauche va partir unie en 2027.
Ouais, la gauche.
Donc les européennes, finalement, c'est déjà acté pour vous, et vous envisagez déjà 2027.
Non, mais ça y est, ils sont au pouvoir.
Voilà.
Non, pardon.
Juste pour l'écologie au pouvoir.
Attends, il faut se préparer, il y a le même en face qui arrive.
Sur la NUPES, pour moi, la NUPES est une escroquerie. Est une escroquerie, je l'explique pourquoi. C'est vrai.
Vous êtes dur.
Comme l'UMP, les LR, c'est une suite d'escrocs.
Pourquoi
est-ce
une escroquerie? Laissez-le.
Certes que ça vient de l'élection présidentielle. Effectivement, le peuple de gauche, parce qu'il existe le peuple de gauche, ne voulait pas y aller divisé. Ils ont voté sur la personne qui est arrivée en tête. M. Mélenchon, 3 semaines avant les présidentielles, était à 8% dans les sondages. Et tout d'un coup, il passe à 22%. Et toute la gauche a voulu avoir une personne pour bloquer le chemin à l'extrême droite. Et ça, c'était la démarche politique et la démarche unitaire à gauche et au centre-gauche, aux humanistes. Mais vous avez confondu la démarche politique de bloquer le Rassemblement National pour argent comptant, c'est-à-dire c'est fini, mais M. Mélenchon domine la gauche, il a fait un acte politique, il a donné quelques sièges à certaines personnes, les écologistes avec une vingtaine, les socialistes avec une trentaine, les communistes avec une dizaine, il a dominé le match. Qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve à l'Assemblée Nationale avec des gens qui n'ont rien à voir avec la gauche. Jusqu'à aujourd'hui, j'arrive même pas à comprendre leur position sur les questions économiques, écologiques, sur les questions européennes, ce qui se passe au Moyen-Orient, on reviendra tout à l'heure. Ils ont des positions complètement, diamétralement opposées. Qu'est-ce qui peut ramener un socialiste, un écologiste et un élitiste sur les questions européennes? Ouais. Sur la défense, sur l'écologie, sur le nucléaire, une grande divergence.
Alors, Thierry,
rien ne les rassemble.
Thierry, juste Paul, il faut qu'on avance.
C'est vrai. Alors, déjà, pour répondre à madame la conseillère, autant pour moi, la NUPES, finalement, c'était juste pour faire un barrage, plutôt
c'est
une grande fumée, au niveau de l'Assemblée nationale.
Mais non,
parce que le Rassemblement national, c'est eux qui avaient le plus de députés, à peu près au niveau de 90. Voilà.
Mais si vous lisez le programme, vous verrez qu'on
ne voulait
certainement
pas l'admettre.
Tandis que
maintenant, je termine. Maintenant, le comportement, justement, du groupe de Mélenchon, et pas que, font le jeu du Front National, Assemblée nationale.
C'est le marche-pied du Front National.
Or, on voit qu'on s'est allié
que... Mais là, ça va éclater pour les européennes,
on le sait. Mais non, ça ne va pas éclater, parce que si vous regardez nos programmes, on a 70% de nos mesures en commun. Par ailleurs, les jeunes écologistes, les jeunes insoumis, les jeunes socialistes ont élaboré un programme de la NUPES commun, car nous voulions partir ensemble, originellement.
Mais ça ne prend pas.
Mais il dit
ça, ça n'a pas pris.
Ça
n'a pas pris.
Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris.
Merwan,
je vais juste faire un petit constat là. C'est pas de l'histoire. C'est pas très vieux. Hein. C'est pas très vieux. Je vais vous rappeler 2022.
Oui.
2022. Si le seul problème de la gauche c'est son unité, si les candidats de gauche font front derrière Mélenchon, il est au second tour.
Attendez,
laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît.
Moi j'écoute.
Il arrive au second tour devant Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qu'a fait Emmanuel Macron pour son premier mandat, il perd devant Mélenchon ? Qui ne vote pas derrière Mélenchon face à Emmanuel Macron ? Voilà, point.
Mais
si la gauche est
derrière,
à droite, il n'y a rien, il n'y a aucune unité et aucune proposition à droite.
Alors,
parce que ce qu'a fait Emmanuel Macron sur son premier mandat, c'est détruire la France. Et aujourd'hui,
Karim, on passe au second sujet.
Bien sûr, on veut bien être derrière quelqu'un, mais pourquoi ?
Non, mais vous êtes économiste.
Attendez, laissez-moi terminer.
Attendez.
Moi, je suis un Européen. Pourquoi je veux mettre derrière quelqu'un qui est un anti-Européen ?
Vous êtes un Européen ?
Pourquoi je suis pour l'unique, monsieur ?
Quelle Europe ?
Laissez-moi terminer. Je vous ai laissé.
Allez-y.
Je suis pour la souveraineté.
J'ai beaucoup moins parlé.
Pour avoir le nucléaire. Et M. Mélenchon contre le nucléaire. Et je suis pour, moi personnellement, de travailler pour faire le maximum pour rassembler les travailleurs et les agriculteurs pour se rassembler. Ce n'est pas être pour l'immigration libre qui est là à détruire le pacte social.
Vous auriez voté pour Macron en 2022 ?
Avec plaisir.
Monsieur qui aurait été anti-nucléaire.
Il y a beaucoup de gens qui ont voté parce qu'il y avait le barrage républicain. Voilà, tout simplement.
Maintenant, la question. Il aurait dit que ça
allait
toujours
On passe Thierry Paul Valton, on va passer.
Avec plaisir.
Il est quand même 19h29 et il faut qu'on avance quand même. Non, pas les agriculteurs, mais j'aimerais bien qu'on parle. Vous savez, c'est de ces fictifs. Alors, vous avez le choix. Je vous laisse soit Bompard et sa déclaration où il tacle Gabriel Attal, ou alors on passe au victime française, tiens, à Gaza, l'Elysée.
Oui, victime française, Gaza.
L'Elysée qui envisage...
L'Elysée
qui envisage un temps mémoriel ultérieur. Mercredi prochain, vous savez, il y a un hommage. Le 7, c'est mercredi, non ?
Mercredi,
c'est le grand hommage national aux victimes du 7 octobre. Française, hein. Normal, évidemment, la France rend hommage. Enfin, absolument, et c'est normal. Mais l'Elysée envisage un temps mémoriel ultérieur. Ça interroge beaucoup. Karim.
Rapidement sur le sujet.
Pourquoi ne pas avoir associé évidemment ces deux ?
C'est important de séparer. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui s'est passé le 7 octobre.
Le pogrom
du 7 octobre est un crime contre l'humanité. C'est quelque chose qui... Ça fait depuis 1944-45 qu'on n'a pas vu ça. C'est-à-dire qu'on a un crime contre l'humanité. On est là. Les islamistes du Hamas sont partis.
Mais certains
les
vous diront
terroristes.
Que c'est un crime à l'humanité. Attends, aussi, on dit avec des Gazaouis.
Attendez, j'arrive. Mais on parle
non,
de
mais,
certains
je, non, mais, parce que je vois les messages déjà.
Non,
des
mais
vidéos,
ils existent. Vous le et là, c'est
terroriste.
Hamas. C'est une organisation barbare, le Hamas. C'est même pas juste des terroristes. Voilà. Bien sûr, c'est des terroristes.
On est d'accord.
Laissez-le dérouler son truc. Laissez-le, s'il vous plaît.
Et donc, effectivement, il y a 42 Français qui ont été assassinés. Et il y a encore 3 Français en otage, encore, à Gaza. Ils sont en détention entre les mains des criminels du Hamas. Moi, je les appelle des criminels. Les gens du Hamas, ils sont des criminels. C'est des barbares.
Et Netanyahou, c'est un criminel.
Attends, je reviens. Laisse-moi terminer. On parle du 7 octobre. Le président de la République a eu cette idée forte de rassembler pour rendre hommage et surtout ne pas oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. À la deuxième question, pourquoi on n'a pas rassemblé ? Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, le conflit qui est à Gaza, aujourd'hui, on a une organisation criminelle qui a attaqué, qui a provoqué un pogrom, qui a tué des gens, ils ont violé des femmes, ils ont décapité des enfants, ils ont pris 200 et quelques personnes en otage, mélangé le tout, je pense que c'est une erreur stratégique et politique. Effectivement, ce qui se passe à Gaza, et c'est un drame humanitaire, un drame humain. C'est un drame.
C'est pas un génocide, comme le dit la Cour de justice internationale.
Elle n'a pas dit ça.
Si.
Il y a un risque. C'est différent. Ah non, la langue française est très...
Vous êtes un vrai politicien.
Non.
Les mots sont précis quand vous le voulez.
Non.
Bravo.
Le mot, pour terminer...
Vous êtes très flou sur certains sujets.
Mais une chose est sûre. Soit On dit les choses de manière claire que le Hamas est une organisation criminelle, une organisation terroriste, que la France insoumise est incapable de prononcer le mot terrorisme. C'est une honte
absolue.
Mais ça,
c'est
absolue.
Un choix individuel.
Elodie Bouzid. Non, mais Elodie Bouzid. On fait un tour de table, justement.
Et pourquoi? Parce
que. Même question. Sur le sujet, Elodie Bouzid, s'il vous plaît, sur le sujet du grand hommage, notamment, et à la fois sur l'hommage des Français israéliens, des Franco-Israéliens et des Franco-Gazaouis. Palestinien, pardon.
Je peux répondre rapidement sur le terrorisme.
Allez-y.
La question du terrorisme ? Très bien. Sur le terrorisme, alors en droit, on a des termes spécifiques en droit et le terrorisme ne fait pas partie d'un terme juridique.
Ça veut rien dire.
Ce qui veut dire que quand on dit qu'une organisation est terroriste, on ne la condamne pas. Quand on dit qu'une organisation est criminelle, qu'elle commet des crimes de guerre, là on la condamne. Là on entre dans
les
termes juridiques.
Pourquoi ça vous dérange
le terme
terrorisme ?
Et là, parce que le terme terrorisme a été inventé par des Occidentaux pour regrouper plusieurs catégories de milices arabes.
J'étais victime du terrorisme, je peux vous en parler. J'en ai vu des centaines de milliers de personnes mourir, madame.
Bien, et moi,
vous dites n'importe quoi.
Et moi aussi,
le terrorisme, c'est semer la terreur.
D'accord, très bien. Alors,
c'est celui
alors, et alors quand des blancs font des attaques au couteau à
vous
Paris, à Gare de Lyon, est-ce du terrorisme? Si le terrorisme n'a pas de couleur, si le terrorisme est une qualification, est-ce que vous dites que des gens qui font des attaques au couteau à Paris sont des terroristes?
Pourquoi
s'ils
vous
ne
voulez
sont pas,
pas prononcer le mot terrorisme? Je vous pose une question.
Mais je vous ai répondu.
Vous n'avez
parce
pas
que, à mon sens, le mot terroriste, a une dénotation raciste et on parle de terrorisme que lorsque l'on parle d'organisation arabe.
À la question,
c'est incroyable.
À la question sur le grand hommage mercredi prochain, et puis celui, vous savez, qui est victime française à Gaza, qui l'Élysée envisage un temps mémorial ultérieur. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela ?
Eh bien, étonnamment, je vais être assez d'accord avec vous, puisque moi, je pense que c'est bien de diviser, d'avoir deux temps, dans le sens où, effectivement, il y a eu des crimes commis par le Hamas, et vous voyez, je n'ai pas de mal à le condamner, mais d'un autre côté, il y a eu aussi
des islamistes barbares.
Il y a eu des crimes également commis par Israël, le gouvernement Netanyahou, qui est un gouvernement d'extrême droite qui mène actuellement une politique coloniale, notamment en Cisjordanie, et il est bon de rappeler des deux côtés que la France soutient ses ressortissants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau ou leur confession.
Donc
ça me paraît logique. Qu'on sépare, qu'on fasse dans un premier temps les victimes du 7 octobre et dans un second temps qu'on n'oublie certainement pas les victimes des bombardements israéliens.
Thierry Paul Valette.
Bon, alors là, le débat sur les termes, le terrorisme ou pas, j'ai envie de dire que le droit international doit évoluer en la matière et c'est important de le rappeler.
Là, vous répondez à Elodie Bouzid sur les termes juridiques.
Et c'est pour ça que l'Europe a son poids aussi, un rôle à jouer. Et elle doit exercer aussi une pression internationale sur les grandes instances.
Oh, mais ce qu'elle dit, Thierry Paul, ce qu'elle dit, Elodie Bouzid, en même temps, beaucoup le pensent, c'est-à-dire que vous avez les Occidentaux et l'Europe qui considèrent que le terme terroriste, évidemment en direction du Hamas, il existe et il faut qualifier cette chose en terrorisme.
Oui,
mais le reste du monde, le mot terroriste n'existe pas.
Pendant ce temps-là, c'est quoi la situation? C'est que là-bas, à Gaza, il y a la plus grave crise humanitaire actuelle,
une famine générale qui est en train
de se mettre en place. Voilà.
Absolument.
Alors, moi, je suis d'accord avec vous sur les propos que vous teniez par rapport au Hamas. Mais en revanche, la problématique, c'est que l'extrême droite israélienne, elle cause du tort, elle cause beaucoup de tort. Et la deuxième chose, c'est que les territoires occupés, la problématique, si on veut un jour revenir à la paix, il faudra bien s'en préoccuper. C'est deux choses importantes. Et enfin, j'ai envie de dire, la France, au niveau de la carole à peu près diplomatique, et encore, l'Europe a tout un poids à jouer pour la réconciliation des deux peuples. Mais maintenant, il faudrait aussi qu'on fasse front par rapport aux États-Unis. Parce que les États-Unis, eux aussi, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui dirigent.
Je donne la parole à Merwan, mais il faut marquer la pause parce que j'ai mon réalisateur qui me dit il faut lancer. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on va se faire couper. Parfois, c'est l'automatique.
Oui.
Pause et on se retrouve. Je donne la parole à Merwan.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Notamment avec les débattants, c'est très animé aujourd'hui pour démarrer cette semaine, ça promet pour le reste de la semaine, avec Karim Maloum, avec Elodie Bouzid, avec Merwan Mehoubi et enfin avec Thierry Paul Valette. Je n'ai pas donné la parole à Merwan et on le laisse s'il vous plaît aller jusqu'au bout, évidemment, de ce qu'il veut dire concernant ces victimes françaises à Gaza et puis ce 7 octobre notamment.
Je ne serai pas long Adil, je pense que d'unifier quel que soit le mort civil, c'est une catastrophe. Jamais des civils, que ce soit israéliens ou palestiniens, n'auraient dû être impliqués à ce niveau-là, c'est catastrophique. Il n'y a personne qui pourra revenir sur ça.
C'est vrai.
Sur l'hommage, c'est quand même triste
pour
que
moi, ça la France, c'est horrible.
Le pays, voilà, c'est simple, mais c'est vrai en même temps. Le pays qui aurait dû montrer la voie, qui aurait dû montrer qu'il y a une solution, une sortie possible, c'est la France. Et en ayant un hommage où on unifie les deux parties qui sont les victimes de ce conflit-là, on aurait montré un symbole fort et montré que la France a encore une voix au niveau diplomatique et qu'elle peut jouer un rôle de conciliateur et montrer une solution, une voie de sortie sur ce qui se passe là-bas. Ensuite, on parlait de terrorisme. Ben, c'est ridicule. Dominique de Villepin a très bien abordé le sujet. Le terrorisme, c'est un moyen. On ne lutte pas contre un moyen. On lutte contre des groupes politiques, on lutte contre des groupes armés, mais on ne peut pas lutter. Les États-Unis, première puissance au monde, ils ont fait la guerre au terrorisme. W. Bush, il a fait la guerre au terrorisme. Ils y sont restés. Ils n'y ont rien fait. Ça a été un échec. Merci. Ça a été un échec. Donc de nous dire le terrorisme, non. Il y a un sujet. Il faut être pragmatique et aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et arrêter de faire de l'idéologie.
Karim, et ensuite Cyril-Paul Valette, et ensuite Élodie.
Je veux juste.
Il faut qu'on avance aussi.
Voilà, rapidement. Allez. C'était juste une phrase d'Albert Camus. Il a dit le malheur ne rajoute pas au malheur des hommes quand tu ne nommes pas les choses. Tant que tu nommes pas.
Vous ne les nommez pas. Mais vous faites de l'idéologie.
Laissez-le finir.
Je vais essayer de te rester.
Allez-y.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ce sont des islamistes. Ce sont des barbares.
Mais à quel moment
ce sont
on parle de la solution à un ou deux États? C'est ça le problème.
Maintenant,
Netanyahou, à quel moment on parle de ces sujets-là?
On va arriver. Il faut parler de la paix aujourd'hui. Oui, mais la paix, par définition,
elle se fait à deux.
C'est-à-dire qu'il faut avoir soit deux armées, soit deux États. Le problème qu'on a aujourd'hui à Gaza, le Gaza est dirigé par des islamistes. Aujourd'hui, à Gaza, il n'y a aucun interlocuteur. À Gaza. Aujourd'hui, le problème, le malheur, même si tu veux signer la paix, même Israël ou n'importe quelle force qui peut venir de l'extérieur, l'Union européenne ou les États-Unis, il faut se mettre à table de négociation. Il y aura un État qui sera représenté, l'Israël sera représenté par un gouvernement ou bien par des militaires, et les Palestiniens seront représentés par qui?
L'ONU a proposé une sortie.
Tant qu'il y a le Hamas, c'est foutu. Au Gaza, je pèse mes mots, depuis une vingtaine d'années, depuis 1988, j'ai dit les mêmes phrases.
Sur
Hamas. Tant que le Hamas dirige la bande de Gaza, il n'y aura ni paix, ni démocratie,
qui a financé
ni
le Hamas.
Dans la charte du Hamas, c'est la détruire l'État d'Israël et des Juifs.
Allez, tout. Cyril-Paul Valette, dans l'ordre, alors, et Élodie Bouzid.
Moi, je dis.
Et ensuite, on passe aux agriculteurs.
Là, on avait, au début, la marche contre l'antisémitisme.
Il faut
se rappeler que Mélenchon a dit non, je ne serai pas là. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on est en train de rater une deuxième occasion. La seconde occasion, c'est qu'on soit, pour l'hommage, unifié des deux côtés. Et ça ne va pas être le cas, et c'est dramatique. Maintenant, oui, la paix. Mais la paix, le processus de paix, il ne va pas intervenir. Maintenant, de toute façon, tant qu'il y a Netanyahou au pouvoir, l'extrême droite au pouvoir, c'est cuit. Tant qu'il y aura le Hamas, c'est cuit.
Les Israéliens manifestent en masse.
Où est le Mahmoud Abbas? Ils sont où? Elles sont où ces voix-là?
Il faut
qu'il y ait une aide internationale auprès de Gaza pour les aider à se faire entendre et effacer aussi Gaza. C'est important, il faut passer par là.
Élodie Bouzid, et on passe aux agriculteurs.
Je suis entièrement d'accord, et on parle beaucoup de paix, mais on oublie qui sont les interlocuteurs dans la région. Vous avez dit le Hamas, certes.
L'Iran aussi.
Et oui.
L'Iran, il faut parler de l'Iran, c'est important. J'allais en parler.
Oui.
Et surtout, quand vous parlez de Netanyahou, moi je suis entièrement d'accord avec vous, on ne peut pas faire la paix avec quelqu'un qui est d'extrême droite, qui a des volontés coloniales, qui l'a dit plusieurs fois dans ses discours, et qui a même des volontés génocidaires, ce qui a été cité par la Cour internationale de justice. Donc on ne peut pas faire la paix quand les interlocuteurs d'en face sont barbares et sanguinaires. On ne fait pas la paix à coup de bombardement. Et tout ce qu'aujourd'hui fait Netanyahou, c'est de renforcer le Hamas.
Vous l'admettrez, Marie, d'un côté comme de l'autre.
Mais bien sûr, d'un côté comme de l'autre.
Ah, c'est important
et
de
c'est
le
pour
dire.
Ça que
Merci.
Le serpent se mange la queue. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est pour ça que l'on parle.
Madame, messieurs, nous allons passer au dernier sujet qui a retenu notre attention, c'est la colère des agriculteurs, évidemment. Mais surtout, un vrai coup de gueule, bien sûr, Michel-Édouard Leclerc qui assure que les agriculteurs ont reçu des consignes, tenez-vous bien, pour bloquer la grande distribution et accuse le gouvernement. Thierry-Paul Valette.
Alors moi, je vais dire, Michel-Édouard Leclerc accuse le gouvernement de connivence avec la FNSA. Bon, rappelez-vous, Jérôme Bayle, il l'a dit, le leader qui a dit on lève les barrages, le premier barrage. Le gouvernement m'a proposé un poste. On n'a jamais eu la réponse de rien du tout. Moi, ce que je souhaite, c'est que nos chers parlementaires, entre les députés qui ont augmenté de 300 euros leur indemnité parlementaire, les sénateurs de 700 euros, que ça serve à quelque chose. Qu'ils mettent en place une commission d'enquête, que soit auditionné le gouvernement, que soit auditionné les leaders protagonistes, et ainsi que le ministre de l'Agriculture. Parce que ça, c'est honteux, c'est scandaleux. Et là, on veut la transparence. Et il y a besoin de la transparence. Parce que la crise agricole, c'est aussi notre crise. Et les réponses, elles sont aussi par rapport à l'Europe. Parce que l'Europe, si vous avez vu les agriculteurs, ils n'ont jamais demandé à quitter l'Europe. Ils ont demandé à ce que les normes, elles soient logiques.
C'est le marché.
Ils ont demandé à ce que le libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qu'on en sort. C'est un message fort qui est important à cette avant-veille de l'élection présidentielle.
C'est très important ce qui s'est passé. Ça fait 15 jours. Remis les sujets économiques sur la table, c'est formidable. À découvrir que les Français sont très attachés à l'État-providence, mais par contre, ils ne veulent pas de pression fiscale. Ils veulent avoir une agriculture saine, mais ils ne veulent pas de normes. Ils veulent avoir des parts de marché, mais par contre, ça les intéresse pas, le libre-échange, etc. Ils oublient que l'agriculture française est excédentaire, passe de 17 milliards grâce au libre-échange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui.
C'est le vin qui la rend excédentaire. C'est les
sans le vin et le champagne, je maîtrise mon sujet, c'est 7 milliards excédentaires. Donc voilà, si toujours l'agriculture était excédentaire.
Vous êtes en train de dire que l'agriculture française va très bien finalement.
Non, j'ai pas dit ça. Oui, bah alors, le fond de la question qui n'a pas été abordée, quand vous avez des fermes agricole avec un exploitant en deux. Comme vous avez en Ukraine, aux États-Unis,
ils sont morts.
C'est des régions entières. L'île de France est un agriculteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de l'agriculture.
C'est l'Union européenne le problème. C'est le marché commun le problème.
C'est
la concurrence. C'est la concurrence déloyale le problème. Quand vous traitez avec le Mercosur, quand vous faites le CETA, vous mettez en concurrence des producteurs français qui font de la qualité,
juste mon ami,
avec des produits qui sont non qualitatifs et avec lesquels on ne peut pas faire concurrence.
Les normes qu'ont dit les agriculteurs. Le problème, c'est que l'Europe impose des normes. Attends, on a raison, il faut en discuter. Mais seulement, qui les met de la manière la plus radicale en place, c'est la France. Et ça, c'est une honte. Quant à l'Ukraine, on va chercher la plupart de nos poulets. Il faut savoir que l'Europe vient de valider le dossier d'adhésion à l'Union européenne.
Exact.
Mais si on accepte l'Ukraine, et moi, je ne suis pas contre le peuple ukrainien, bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura 186 milliards d'aide sur 7 ans pour la politique
agricole. C'est là où le bas blesse. Attendez, s'il vous plaît. Entendre Élodie Bouzid.
C'est la seule femme qu'on a autour de nous.
Soyons galants quand même.
Et pourtant, pas la petite voix, malheureusement.
Attention, Europe Écologie Le Vert va vous dire, vous êtes féministe.
Aujourd'hui, le fond du sujet aussi, et c'est ce que les agriculteurs ont voulu nous faire passer comme message, c'est qu'ils ne sont pas valorisés. Aujourd'hui, que gagnent ces petits agriculteurs, ces petits producteurs? Ils vivent un salaire de misère et aujourd'hui ils nous l'ont montré.
Enfin, ils vivent un salaire.
Oui, mais pourquoi?
Ils vivent rien plutôt.
Ils vivent pourquoi? Exactement.
Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché. Ils n'arrivent même pas à sortir un salaire.
La concurrence.
La majorité vous dit qu'on n'a pas de salaire justement, ma chère Yazid.
Et les grands distributeurs aujourd'hui se plaignent et accusent le gouvernement. Certes, c'est en grande partie la faute du gouvernement, mais il est temps.
Il n'y
a pas de fumée sans feu.
Merwan.
Sauf que vous trouvez jamais les coupables. Vous remontez jamais à Bruxelles, à l'Union européenne. Mais ça, c'est pas
fumeux,
grave.
C'est
comme
fumeux,
vous faites de l'économie, on va juste rappeler une chose. Quand vous êtes dans un marché commun et que vous enlevez les barrières à des produits qui sont pas produits avec les mêmes normes, automatiquement, les prix sont pas les mêmes. Et le consommateur français qui a plus les moyens, il va au moins cher. Et donc, du coup, les produits qualitatifs que nous on sait faire, ils sont mis à la poubelle. Et nos agriculteurs meurent. Et
non, c'est ça le constat. Les agriculteurs ne sont pas en Europe, monsieur.
Les informés. Le quoi de neuf?
Le quoi de neuf, c'est avec Michel Taube. Bonsoir Michel Taube. Bonsoir. Bonsoir Michel Taube. Comment ça va? Vous allez bien?
Ça va et vous?
Michel Taube, éditorialiste, mais également directeur fondateur de l'Opinion Internationale Média en ligne. Je vous lance pour deux sujets. À la fois sur évidemment les déclarations communes avec Monsieur Gabriel Attal tout à l'heure, il y est à peine quelques minutes, mais également la nomination du reste du gouvernement qui tarde et qui traîne.
Oui, alors je vais peut-être commencer par le nouveau gouvernement, le Attal 2, après Attal 1 avec 15 ministres. on attend Attal 2 pour en fait regretter qu'il ait fallu tellement de temps et combien de temps cela va encore durer pour avoir un gouvernement au complet, regretter que sur des ministères aussi importants que le logement, l'immobilier, les transports, il n'y ait pas de ministre de plein exercice, c'est quand même extrêmement grave et fort dommageable. Espérer que Madame Oudéa Castéra reviendra exclusivement au sport, parce qu'encore une fois, à quelques mois des Jeux Olympiques, c'est déjà un ministère de plus qu'un plein temps, et il vaudrait peut-être mieux confier l'éducation nationale à un ministre qui s'en occupera pleinement. Bref, il y a encore des ajustements qui sont nécessaires, et il est urgent, par respect pour tous les professionnels, il n'y a pas de grand ministère de la ville non plus, il y a plein de sujets qui ne sont pas aujourd'hui
représentés. Michel Taube, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez quelques noms qui traînent comme ça
Il pourrait peut-être y avoir un nom surprise, c'est François Bayrou.
Dis-moi aussi. François Bayrou, à la tête du ministère de l'Éducation nationale.
Exactement.
Non, il est relaxé.
Il a été innocenté ce matin par la justice dans l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen. On se rappelle qu'il y a 7 ans, il avait quitté le gouvernement sur cette affaire. Aujourd'hui, il a été innocenté. Il pourrait effectivement faire un grand retour au ministère de l'Éducation nationale. Alors bon, il a déjà été ministre de l'Éducation nationale il y a plus de 20 ans. Est-ce qu'il est prêt, à repartir dans cette fonction ? À voir. Après, moi, j'espère que certains noms qu'on avait dans le précédent gouvernement, Madame Agressi, Roubache, Sarah El Haïry et quelques autres, seront Olivia Grégoire, qui était une très bonne ministre des TPE, des PME, reviendront au gouvernement. Je pense que ce serait une bonne chose. Après, voilà, il est urgent que le gouvernement soit complété. Parce que par respect pour tous les professionnels de ces secteurs qui n'ont pas d'interlocuteurs au niveau de l'État, c'est quand même extrêmement dommageable. Alors, et puis le deuxième
point, oui, sur évidemment les déclarations communes.
Alors, moi, c'était surtout pour saluer, ça fait peut-être un petit peu ringard, mais ça me paraît très important. Gabriel Attal a réservé son premier déplacement de Premier ministre à l'étranger pour aller en Allemagne, rencontrer son homologue Olaf Scholz. Il est donc ce soir à Berlin. Ils ont plusieurs rendez-vous, mais je voulais à travers ce déplacement réaffirmer, rappeler que un des grands piliers, le pilier de l'Union européenne, de la construction européenne, c'est la relation franco-allemande, avec un souci commun pour les deux chefs de gouvernement, c'est la montée des populismes. En Allemagne, il y a un parti qui s'appelle l'AfD, qui est directement d'émanation néo-fasciste, néo-nazi, qui dans les sondages est donné vainqueur dans plusieurs élections l'année prochaine en Allemagne, qui pourrait faire un score important aux européennes. Et nous avons en France la même menace. Donc à ceux qui souvent en France, un peu par facilité, par ce qu'on appelle le « German bashing », c'est de s'en prendre à l'Allemagne, de dire que c'est à cause des Allemands qu'on a des problèmes d'électricité, etc. Non, il y a un couple franco-allemand qui est très important. Et moi, je veux, même si c'est peut-être pas, on va dire, à la mode, saluer la force du couple franco-allemand et donc la visite de Gabriel Attal à Berlin ce soir.
Merci infiniment. Merci beaucoup pour ce billet d'humeur, Michel Taube. À la semaine prochaine, sans faute.
Avec grand plaisir.
Merci, éditorialiste, absolument éditorialiste, mais également aussi directeur fondateur d'Opinion Internationale. Thierry Paul Valette, oui.
Bah, mes amitiés à Michel, au passage.
Et la raison de dire le couple franco-allemand, oui, c'est le moteur de l'Europe.
Bah,
et
c'est temps, parce que ça fait un moment qu'on ne voit plus.
Notre avenir est dans l'Europe, n'est pas en dehors de l'Europe, comme disent certains.
Merci, Élodie Bouzid, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts. À très vite, alors.
À très vite, avec plaisir.
Bien.
Merci.
Excellent. Karine Maloum, à bientôt.
C'est un grand plaisir.
Oui, partagez. Thierry Paul Valette, le candidat plus que jamais.
Discipliné, parce qu'il faut de la discipline et de la rigueur, et c'est important toujours.
Ouais. Saluez vos fidèles, tiens.
Voilà, Beurre FM et Adil vous fait un coucou, les amis.
Adil, je vais juste rebondir
alors
sur...
Alors, il y a la nièce aujourd'hui
sur, Non, certainement pas, mais sur le sujet de l'Europe. Je vais faire juste une petite référence. Jean Gabin, le président, c'est pas sur l'Europe qu'on se pose une question, mais sur la manière de faire cette Europe, monsieur. Voilà.
Merci à Solal, à la réalisation. Time Sport Gabin, avec Bilal Lenman. Vanessa, ça se passe justement à partir de 21h. Kim, demain matin. Quant à moi, demain, avec autant de plaisir. Mais vous savez ce qu'on dit ici, Elodie Bouzid ? On ne lâche rien.
Mais on ne lâche rien alors.
Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.